Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Jean-Yves Jouannet est essayiste, commissaire d'exposition et critique d'art. Ancien rédacteur en chef de la revue Art Press, il a aussi écrit un roman. On pourrait dire qu'il est actuellement un écrivain-performeur. Il a en effet entrepris, depuis 2008, une encyclopédie des guerres sous forme de conférences-spectacles. Il explique avec humour que, comme Bouvard et Pécuchet n'ont rien dit de l'art de la guerre, il lui restait à compléter cette entreprise littéraire dont il est à la fois l'inventeur et le personnage, et qui s'écrit en public et sur scène. Je le cite. L'usage commun implique que l'écriture d'un ouvrage soit motivée par un projet précis, le développement d'une théorie. On suppose que le sujet préexiste à l'écrit, que le livre offre l'espace de sa démonstration. Or, il s'agit là de faire de l'essai le lieu d'élucidation de son prétexte même. Vous allez l'entendre dans un « Du jour au lendemain » avec Alain Weinstein. C'était en 2009.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Jean-Yves Jouannet, pour la réédition de Artistes sans œuvre aux éditions Verticales. Devenant poussière, sans avoir jamais cessé de l'être. Ça fait un petit moment, Jean-Yves Jouannet, que vous n'êtes pas venu dans cette émission. Alors, il faut peut-être que je rappelle que vous avez été pendant 10 ans rédacteur en chef de Art Press et que vous êtes l'auteur de plusieurs essais, dont « Des nains, des jardins », essai sur le kitsch pavillonnaire, publié chez Hazan en 1993. Celui-là, vous étiez venu en parler.
Oui, hein, tout à fait.
« Infamie », 2 ans plus tard, chez Hazan. Et l'idiotie, art, vie, politique, méthode, publié par Beaux-Arts Magazine en 2003. On verra que l'idiotie est une notion importante si on essaye de cerner votre approche des choses. Mais, outre ces essais, vous avez également écrit un roman qui s'intitule « Jésus Hermès Congrès », qui a été publié chez Vertical, l'éditeur qui reprend aujourd'hui Artistes sans œuvre. Écriture de fiction, une tentation.
C'est une très ancienne tentation, car comme beaucoup de gens, j'ai cru très très jeune, et sûrement trop jeune, que la littérature m'intéressait, et que le métier de romancier était un vrai métier. Et donc j'ai toujours écrit À 12 ans, j'ai écrit mon premier roman qui s'appelait Wapitou, le petit indien. C'est peut-être une des plus belles choses que j'ai pu écrire. Et puis, voilà. Et puis, un jour, j'ai pu publier un roman. Donc, c'était Jésus Hermès Congrès. Et puis, ça s'arrêtera là. C'est-à-dire que le rêve a été exaucé. Je suis devenu romancier. Et je n'en écrirai plus jamais d'autres. Et c'est très bien comme cela. Ce qui avait intéressant avec Jésus Hermès Congrès, c'est qu'en plus, je désirais vraiment produire un roman idiot, puisque entre l'idiotie, le livre que vous avez évoqué, qui était une théorie de l'idiotie, et puis Jésus Hermès Congrès, qui se voulait une pratique, une immersion à titre personnel dans cette matière qui est l'idiotie, bien ma foi, voilà, j'ai fait les deux choses que j'avais envie de faire dans ce domaine de l'idiotie.
Mmh. Oui, parce qu'il faut rappeler que le héros, si on peut dire, avait pour projet de rater sa vie.
Oui, entre autres choses, oui.
Et pour vous, ne pas la rater, c'est justement mettre un terme assez rapidement à votre œuvre de romancier.
En tout cas, c'est non. Encore une fois, j'ai rien à reprocher au roman et au genre et aux auteurs. Mais à titre personnel, je suis toujours en quête, assez désespérée, mais plutôt enjouée, d'une approche de la littérature qui ne serait pas obligée de passer par le livre. Et c'est pas du tout un rejet du livre. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur d'artistes sans œuvre. C'est-à-dire que c'est pas la confiance accordée à l'art n'est pas remise en cause. Au contraire, il faut lire les livres qui existent, les films qui sont réalisés, les pièces de théâtre qui sont montées, mais ne pas mépriser pour autant les productions absentes ou absentées ou timides ou discrètes.
Et les fiascos.
Et les fiascos qui ne sont pas les échecs. Ça aussi, c'était pendant toutes ces années, une dominante de mes obsessions, jusqu'à organiser ma première exposition en tant que critique d'art, en tant que commissaire, qui s'appelait Fiasco, justement.
Mmh. À Nice.
Exactement, bravo.
Et c'était au début des années 90.
Oui.
Avec un certain nombre d'artistes qui vous ont apporté leur complicité.
Bien, un éclairage sur, encore une fois, sur cette chose délicate à évoquer, qui est le fiasco, qui est un terme que Stendhal importe dans notre lexique, avec le sens un peu embarrassant d'éjaculation précoce ou de panne sexuelle, ce qu'on a un petit peu perdu de vue quant à l'usage courant du terme. Mais ce qui était intéressant avec ce terme de fiasco, c'était d'évoquer des possibles en termes de l'échec étant un résultat négatif d'un processus, d'un calcul, d'une équation. On arrive à un résultat négatif, le fiasco étant la non-possibilité d'accéder à ce résultat positif ou négatif. Donc ça a plus à voir avec la poétique des limbes, la possibilité de l'éther et la non-décision, la non-réalisation. Donc c'est quelque chose de plus évanescent, de plus poétique, on va dire.
Fiasco, en tout cas, votre première exposition n'a pas été tout à fait un fiasco, puisque vous en avez organisé d'autres expositions. Vous êtes commissaire d'exposition.
Oui, mais pas tant que ça. Je veux dire par là que, oui, j'ai organisé des expositions. La dernière, d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, pour personnage central, Félicien Marbeuf, un écrivain imaginaire que j'évoque dans Artistes sans œuvre. Mais les expositions sont des choses très, très lourdes. Voilà, c'est aussi un petit peu un métier de déménageur, le métier de commissaire d'exposition. Alors, j'ai du mal avec les objets. Donc c'est pas un grand plaisir que d'organiser des expositions.
Et vous faites une grande différence entre votre rôle de commissaire d'exposition et celui d'auteur de livres.
Oui, ce sont même deux personnalités, enfin, assez schizophréniques en moi. C'est-à-dire que oui, ces activités sont assez contradictoires, je dois dire. C'est-à-dire que j'ai toujours prétendu que l'exposition était une extension naturelle du métier du critique d'art, que c'était une mise en pratique dans l'espace, une manière de vérifier les théories. Ce n'est qu'en partie vrai. Je crois qu'on peut se satisfaire des idées. Après, on verra si on peut se satisfaire des livres. Mais en tout cas, les idées suffisent pour avancer spirituellement et intellectuellement.
Vous n'êtes pas seulement critique d'art, Jean-Yves Jouannet, vous êtes aussi artiste, en tout cas performeur, hein, puisque ces derniers temps, c'est une performance que vous êtes livré à Beaubourg avec votre livre Somme, l'encyclopédie des guerres, que vous donnez tous les mois,
pendant 10 ans,
sous forme de conférence.
Oui, l'idée, c'est d'y passer les 10-15 prochaines années. Eh bien, là, C'est un petit peu ce que j'essaie de vous expliquer quant à la complémentarité entre l'idiotie, l'essai et le roman sur l'idiotie, théorie pratique. Que cet essai Artiste sans œuvre qui renaît aujourd'hui, parce que c'est un autre livre que, d'une certaine manière, je le vois différemment. Il a changé de pédigré, de forme, de couleur. Je le redécouvre différent. Il était intéressant pour moi de plonger aussi dans la pratique de la non-production. On pourrait dire ça de manière paradoxale, c'est de décider ou de choisir un chantier, une ambition qui n'aurait pas pour destin celle de devenir un livre, celui de devenir un livre. Et en l'occurrence, d'écrire une encyclopédie des guerres, de l'Iliade à 39-45, qui s'achève précisément le premier bombardement atomique sur Hiroshima. Il s'arrête à 8h13min46s, qui est le moment de l'ouverture de la soute, qui n'est pas le moment de l'explosion de la bombe, 500 mètres au-dessus d'Hiroshima. Et donc cette chose impossible à faire et idiote en soi, puisque je ne suis même pas historien, je ne connais rien à ces choses-là, mais c'est un vieux refoulé, une passion bizarre pour les récits de guerre. Et j'essaye très sérieusement, pour le coup, de m'expliquer à moi-même sur scène ce qu'est la guerre pour moi, quel est le type de curiosité qu'elle suscite en moi, et pourquoi ce phénomène-là s'arrête dans mon esprit en 1945. Mmh. Et le principe, j'en dis deux mots parce que c'est vrai que je suis très excité par cette chose-là, j'espère que ça durera, que c'est la première fois de ma vie où je suis fier même d'un objet, c'est-à-dire d'avoir mis en connexion une obsession et une forme. En cela, c'est peut-être un petit peu de l'art, en effet. Et,
attention, vous êtes sur la mauvaise pente, là.
Oui, sûrement, mais je vais finir par accepter ça. C'est vraiment le point de départ, comme à beaucoup de mes réflexions, c'est Bouvard et Pécuchet. Pour le meilleur et pour le pire, c'est que dans Bouvard et Pécuchet, que Flaubert abandonne inachevé à la fin de sa vie, en 1880, eh bien, ma foi, il y a un chapitre, au moins un chapitre qui n'existe pas, c'est celui où Bouvard et Pécuchet s'adonnerait à l'étude des sciences de la guerre, à la polémologie. Et j'ai voulu, moi, à leur image, avec leur technique aussi saugrenue soit-elle, écrire ce chapitre-là. C'est-à-dire que je n'ai pas fait mon service militaire, je n'ai jamais tenu une arme, je ne connais même pas les grades de l'armée française, mais j'achète tous les jours tout ce que je trouve, mais vraiment par hasard. Alors j'ai lu Clausewitz par hasard, parce que je suis tombé dessus, mais non, c'était pas très passionnant. Mais ça va des traités techniques de toutes les époques, de petits livres à tous les livres traitant de Napoléon. Enfin, je lis tout, absolument tout, et je constitue des petites entrées. Il y en a 400 aujourd'hui. L'ouvrage compte 1200 pages, et il progresse chaque jour. Et je lis ce corpus et le commente, ma glose prenant autant d'importance que cette lecture-là. Et c'est une expérience très étrange, parce qu'elle est de plus en plus funambulesque. J'en sors de plus en plus troublé. Parce que j'en viens à raconter des choses très personnelles. Et moi qui n'ai jamais fait d'analyse, je finis par croire que ça doit s'apparenter à quelque chose de cette nature-là.
Donc une très grande réussite, cette encyclopédie des guerres, car un véritable fiasco, hein, puisque
bien sûr,
on sait que ça n'aboutira pas, en tout cas à un livre.
Non, sûrement pas à un livre.
Et ça illustre assez bien une des propositions de votre essai réédité aujourd'hui, Artiste sans œuvre, celle que vous formulez comme suit. Envisager des œuvres telles que créées, elles en viennent à ne pas exister.
On a, en effet, je ne pars pas de nulle part, hein, évidemment, je n'ai rien inventé dans cette histoire, mais ça part, entre autres choses, d'un très vieux souvenir, d'une encyclopédie Larousse, je crois, de la littérature, ou des littératures, où, adolescent, je tombe sur l'entrée Vache et Jacques, 1895-1919. Non, je crois que je me trompe de date. Il meurt à... Et écrivain français. Et je me dis, bien sûr que j'ai envie de découvrir les œuvres de cet écrivain français. Et je passe des années à découvrir qu'il n'a jamais rien écrit. Voilà, donc c'est le début de la découverte de cette ce moment mythologique de l'art moderne. Comment André Breton en vient à faire exister comme écrivain quelqu'un qui en est le contraire. Et puis il s'est agi comme ça de détricoter ce drôle de vêtement de à la fois de mythe, de supercherie, d'héroïsme, d'avant-garde, pour en arriver à répertorier, sans donner à ce livre la forme d'un catalogue néanmoins, ni d'un annuaire, eh bien quelques grandes figures d'artistes qui n'ont pas produit ou qui se sont refusés à produire.
Alors on va noter tout de même que votre prochaine conférence-performance à Beaubourg, Jean-Yves Jouannet, est prévue pour le 18 juin, excellente date,
exactement.
19h30. Et
à Beaubourg.
On sait que, au final, l'Encyclopédie des guerres va prendre la forme d'une exposition à Nice.
Alors, il y aura une exposition à Nice dans un an autour de l'Encyclopédie des guerres. Mais nous ne serons qu'au début de l'Encyclopédie des guerres, parce qu'encore une fois, j'espère, comme toutes les grandes stars du showbiz, mourir sur scène, hein, face à mon public, donc passer le plus longtemps possible sur scène. Le fait est que là, le 18 juin, ce sera la 10e séance. Et qu'à la 10e séance, je n'en suis toujours qu'à la lettre D. Voilà, donc simplement, j'essaye maintenant je pense que j'y passerai plus de 20 ans. Donc il y aura une exposition, en effet, autour de l'Encyclopédie des guerres, mais ça ne sera pas le point final des conférences.
Et puis on va rappeler, tout de même, avant de passer aux artistes sans œuvre, que, en tant que commissaire d'exposition, vous avez co-organisé la Force de l'Art 02, qui vient de se terminer au Grand Palais à Paris.
Oui.
Ça, c'est une aventure, tout de même.
Ah, c'est une aventure, mais c'est toutes les aventures ont des vertus, des charmes et des désagréments. Non, c'était assez passionnant. C'était assez passionnant. Je n'ai pas travaillé seul. Nous étions trois commissaires, hein, Jean-Louis Froment et Didier Ottinger. Et puis, il s'est agi d'un travail d'équipe, de compagnonnage pendant 3 ans, puisque c'est une triennale. Et que là, c'était en effet la deuxième édition. Assez merveilleux de devoir et de pouvoir travailler dans un lieu comme le Grand Palais. Ça, c'est déjà un grand bonheur.
Dans une manifestation qui a mis l'accent sur la notion d'œuvre, peut-être.
Oui, il s'est agi à un moment donné de réagir ou de commenter de manière non explicite l'intitulé de cette triennale, à savoir la force de l'art. Et on s'est dit que nous, on avait très très envie de mettre en avant la force de l'œuvre en tant que telle. En cela, nous ne sommes absolument pas partis d'une liste d'artistes, contrairement à beaucoup de commissaires d'exposition qui se disent « il faut celui-ci ou il faut celle-là, ceci est à la mode, celle-ci est... » Voilà. Non, et leur demande après coup de produire des objets. Nous, on est vraiment partis d'objets que nous désirions vraiment. Et puis derrière, il y avait une liste d'artistes. Mais il n'y a pas eu cette playlist ou cette liste obligée que s'imposent certains commissaires. La démarche a été un peu inversée. On a eu envie d'œuvres. Voilà.
Alors voilà un livre qui devient un grand classique, Artiste sans œuvre, Jean-Yves Jouannet, réédité aux éditions Verticales un peu plus de 10 ans après la première édition. L'élément nouveau, peut-être que vous allez nous dire que vous avez réécrit chaque phrase, je ne sais pas confronté les deux textes, mais il y a au moins un élément qui ne passe pas inaperçu, c'est une préface d'Enrique Villamatas. L'auteur, entre autres, d'Abrégé d'histoire de la littérature portative chez Bourgois et de quelques autres livres dont il est venu d'ailleurs souvent parler dans Du jour au lendemain, comme Bartleby et compagnie.
Alors, vous n'aviez pas à confronter les deux versions, parce qu'elles sont quasiment identiques. En effet, il y a quelques petites variantes dans le chapitre consacré à Félicien Marbeuf. Mais en effet, la grande différence et le grand cadeau qui m'a été fait par Enrique Villamatas, c'est cette préface où il raconte la manière dont nos destins littéraires se sont croisés, ou en tout cas dont nos obsessions littéraires se sont croisées, entrecroisées, sans que jamais nous ayons eu à nous rencontrer. Ça, je tiens beaucoup à dire ça, parce que c'est vrai que dans la première édition, date de 1997, la maison Hachette rachète les éditions Azan quelques années plus tard, et ce genre de livre va très vite au pilon, dans une maison comme Hachette. Et puis, c'était pas plus grave que ça, c'est qu'un livre sur les artistes sans œuvre en vienne à disparaître, c'était même plutôt joli. Mais Enrique Villamatas, que je cite dans le livre, puisque je cite justement dès l'ouverture son abrégé d'histoire de la littérature portative, a dit à 2-3 reprises dans des journaux, lors d'interviews, des choses très gentilles sur ce livre qui n'existait plus. Et je me suis dit, c'est trop stupide, j'ai envie que ce livre existe encore, et c'est grâce à lui que j'ai eu envie que ce livre ressuscite. Et donc je me suis adressé aux éditions Verticales, chez qui en effet j'avais publié déjà un roman. Et ils l'ont accueilli très chaleureusement, et Enrique Villamatas a accepté de d'écrire cette préface.
Il faut dire que le sous-titre que vous aviez donné, que vous donnez au livre « Artistes sans œuvre » est emprunté à Bartleby.
Voilà.
Donc il y a encore un lien avec Villamatas.
Oui, tout à fait, il y a beaucoup de liens. Mais ce sont des liens, comme vous le dites, essentiellement littéraires, de référence et d'obsession. Et il y aurait eu bien des occasions pour se rencontrer, et ni lui ni moi ne l'avons désiré. Et j'aime beaucoup l'idée que Enrique Villamatas n'existe pas tellement plus que Félicien Marbeuf dans mon imaginaire. C'est-à-dire que rien ne me certifie que ce monsieur a vraiment existé. Il existe aujourd'hui on parlera peut-être plus de Marbeuf tout à l'heure, mais en tout cas, j'aime bien l'idée que Enrique Villamatas soit une création, un personnage littéraire, comme je le suis peut-être pour lui.
C'est-à-dire que même un écrivain qu'on entend à la radio n'est qu'un personnage.
Mais dans l'exposition que je viens de monter sur Félicien Marbeuf, on entend la voix de Félicien Marbeuf. Donc non, on n'a aucune garantie de vérification.
Mmh. Alors le mot central de votre livre, c'est quand même le mot œuvre, hein, artiste sans œuvre. Parce que est-ce que c'est vraiment le bon terme? Est-ce qu'on peut parler d'œuvre pour des artistes pour qui faire une œuvre pose un problème?
Oui, c'est sûrement une facilité de langage, en effet. C'est-à-dire que je ne suis pas philosophe. J'aurais pu me débrouiller par des périphrases extrêmement compliquées pour aboutir à une définition beaucoup plus fidèle à la nature de l'objet ou du non-objet que l'usage un peu trop banal de œuvre. C'est vrai, mais au final, on arrive néanmoins, je crois, à définir une typologie d'œuvres qui n'en seraient pas véritablement. Des œuvres qui n'en seraient pas parce qu'elles ne seraient pas tributaires du travail, par exemple, de la souffrance au travail. C'est quelque chose qui fascine aussi Enrique Villamatas. C'est des gens qui font plutôt le pari de la vie plutôt que celle de l'art. Il y a une espèce de séparation qui se crée là, qui est envisagée, fantasmée, entre, il serait peut-être plus important de réussir une belle partie de tennis plutôt que de réussir une belle page de roman. Bon, toutes ces choses-là sont très, très discutables. Oui, c'est une facilité que d'appeler œuvre aussi ces objets qui n'en sont absolument pas, en effet.
Parce que c'est toujours le problème de la relation au travail. Est-ce qu'on peut produire rien?
Oui, il y a deux choses. C'est la définition de l'œuvre ou de la non-œuvre par rapport au travail, mais il y a un autre point de vue envisageable, c'est d'envisager l'œuvre et la non-œuvre par rapport à l'histoire de l'art telle qu'elle s'écrit. Et qu'il y a des gestes, il y a des postures, il y a des sentences, il y a des choses qui relèvent d'intensité plus ou moins forte, qui ont intégré l'histoire de l'art sans être des œuvres à part entière. Et ça, c'est intéressant pour le coup, et ce n'est pas récent. Enfin, on renvoie aux multiples écrits sur de Borer en particulier, sur l'idée d'œuvre-vie ou de vie-œuvre. ça c'est quelque chose même qui remonte à une trentaine d'années, hein, ce genre de réflexion sur qu'est-ce qui intègre de fait l'histoire de l'art et qu'est-ce qu'il faut pousser un petit peu, forcer un petit peu pour lui faire intégrer ce même champ.
Citons quelques noms, justement, pour donner des repères. Bon, tout à l'heure, vous parliez de Jacques Vacher, bon, voilà un excellent exemple, mais il y en a d'autres. Armand Robin, par exemple, le poète des ondes.
Oui, un homme de radio, justement. Un homme de radio.
Un écouteur.
Un écouteur, de la même manière que Duchamp se disait respirateur. C'est-à-dire que c'est deux termes désignant des postures passives, dirait-on, mais de grande ouverture, pour le coup. Et Armand Robin a toujours prétendu que la langue des autres l'avait préservé de sa propre poésie. Il connaissait et pratiquait beaucoup de langues étrangères, plus d'une dizaine, et avait fait profession d'écouter, eh bien, ma foi, dans les années avant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en les années 60, les radios du Bloc de l'Est, les radios pirates d'Amérique du Sud, et éditer un petit livret d'informations qui avait pour client autant les affaires étrangères que telle ou telle... Voilà, donc il baignait, se nourrissait de la langue des autres, la langue des totalitaristes comme la langue des propagandes de toute nature, mais néanmoins il vivait dans cette langue qui n'était pas à lui. Et ça a été son bonheur de poète, ça a été non seulement son gagne-pain, mais son bonheur. Et encore une fois, cette intuition qu'il a eue que ces langues des autres, ces langues qui n'étaient pas siennes, l'avaient préservé de la tentation ou du temps disponible pour produire de la poésie. Et quelque chose, et ça, il en était ravi d'avoir été soustrait à cette tentation. Ouais.
C'est-à-dire que l'art, dans son cas, était du côté du récepteur et pas de l'émetteur.
Oui. Il y a une anecdote d'ailleurs que j'évoque, peut-être totalement irrecevable, mais j'aime bien l'idée que étudiant brillant, il passe l'agrégation, s'avère absolument lumineux et génial à l'écrit et bute des années successivement sur les oraux qui se présentent à lui. Donc en termes de poésie, voilà, il a su peut-être très tôt que c'était dans la réception et non dans la profération que la poésie s'exprimerait dans sa vie.
Il y a un autre nom qu'on peut citer, c'est celui de Félix Fénéon.
Oui,
auteur d'une œuvre invisible.
Oui, tout à fait. À part quelques petits articles dans la Revue Blanche qu'il signe de ses initiales, jamais de son nom complet. Et
donc encore un écrivain qui n'écrit pas, qui évite d'écrire.
Oui. Mais comme Joseph Joubert, qui est quelqu'un d'important dans le livre, dont Blanchot a pu dire quelque chose d'approchant, la chose suivante, à savoir que Joseph Joubert a eu ceci d'exceptionnel comme écrivain, c'est qu'il n'écrit jamais aucun livre, mais qu'il passa sa vie à en chercher la matière. Et donc, moi qui ne suis pas du tout un Blanchotien, j'aime aussi la manière dont Blanchot a rendu hommage à cette œuvre absente, cette œuvre étrangement grave dans son absence, c'est-à-dire avec une attention porté aux gestes littéraires, aux faits littéraires, parce qu'on peut imaginer que pour beaucoup d'artistes sans œuvre, l'insolence, l'insouciance ont pu prédominer, mais il y a des œuvres où l'œuvre s'est absentée, où l'œuvre ne s'est jamais présentée, mais où c'est plutôt la gravité, une vraie croyance en la littérature qui s'est exprimée par ce blanc.
Et d'ailleurs, dans cet ordre d'idées, vous citez Roland Barthes, qui pose problème pour vous, parce que son œuvre entière pourrait être envisagé comme le moyen de ne pas affronter ce fameux roman dont on ne connaît que 8 pages, je crois.
Oui. Alors, on comprendra bien que d'un point de vue épistémologique, ma méthodologie est extrêmement condamnable. C'est-à-dire que ce que j'écris là, ce que j'avance là, même si c'est sous la forme d'un essai documenté, s'apparente à des constructions borgésiennes, c'est-à-dire que je n'ai rien à prouver ou à démontrer. J'aime que la littérature soit plutôt un exercice mental plutôt qu'une démonstration théorique. Et c'est vrai que de tenter de voir Barthes non pas comme l'essayiste qu'il l'a été, mais comme le romancier qu'il n'a pas pu être ou qu'il n'a pas osé être, et la somme merveilleuse de ses essais comme l'énorme détour qu'il s'est imposé pour ne pas en venir à cette œuvre qui était véritablement son genre, encore une fois, je n'ai de preuve pour rien de ces assertions-là, mais ça m'a beaucoup excité d'aller dans cette direction.
Il y a d'autres noms qu'on pourrait citer, que vous citez d'ailleurs dans votre livre, Jean-Yves Jouannet, comme Jacques Rigaud ou Roberto Bazlaine. Mais, vous l'avez annoncé à plusieurs reprises, alors n'attendons pas davantage, parlons de Félicien Marbeuf, parce que je crois que pour vous c'est un grand exemple.
Oui, et en cela, quand je disais que ce livre n'était plus le même que quand il est sorti en 1997 pour sa première édition, à l'époque, je ne disais pas que Félicien Marbeuf était un auteur imaginé et imaginaire. Et ça m'a beaucoup gêné que des gens aient été abusés, parce que je ne supporte pas l'idée d'abuser les gens, de tromper les gens, même. Bon, voilà, rien n'est grave dans cette histoire, mais par exemple, je ne supporte pas les émissions de caméra cachée. Je pourrais pleurer à voir des gens bernés, trompés. Enfin, c'est quelque chose qui me met hors de moi. Donc d'avoir imaginé un écrivain et que des gens aient pu être leurrés par cette invention m'a beaucoup froissé. Enfin, voilà, bon, c'est ridicule à dire, mais je le dis quand même. Et aujourd'hui, je dis que non, Marbeuf...
C'est pas l'homme de la rue, hein.
Pardon ?
C'est pas l'homme de la rue, Marbeuf.
Non, non, ça s'écrit pas pareil d'ailleurs. C'est E dans le O. Et donc Félicien Marbeuf, en fait, je l'ai inventé entre 18 et 20 ans, à l'époque de la constitution d'un petit groupe d'amis à l'université à Poitiers qui s'appelait la Société Perpendiculaire. Et on avait inventé pas mal.
Une revue.
Il y avait une revue chez Flammarion des années plus tard. Mais à l'époque, nous étions très jeunes et j'avais commencé à écrire la correspondance de Proust avec Marbeuf et vice-versa. Vraiment par pure gratuité. Et puis, Marbeuf s'est vraiment imposé dans ma vie très, très sérieusement, gravement. Et jusqu'à ce que je lui consacre un chapitre dans ce livre, Artiste sans œuvre.
Proust aurait plagié Marbeuf.
Oui, en fait, c'est-à-dire que Félicien Marbeuf est né en 1852, mort en 1924, 2 ans après Proust. Et je le présente comme ayant été le plus grand écrivain n'ayant jamais écrit. C'est quelqu'un qui s'apparentait à une espèce d'arbitre. Des belles lettres de son vivant auxquelles se référaient tous les écrivains désirant devenir écrivains ou même les écrivains les mieux accomplis. Et il était habité, disait-on, par un tel idéal, une telle idée de la littérature telle que nul homme n'aurait pu vraiment l'incarner ou lui donner forme, lui-même compris. Donc il a toujours préféré s'abstenir.
Mais alors il s'exprimait comment, cette idée? Qu'est-ce qui lui donnait sa légitimité?
Alors c'est une légende. Je pense que c'est quelqu'un qui a existé comme une légende, comme un mythe, même internationalement, puisqu'on verra qu'à la fin de sa vie, il est accueilli dans une ville du nord des États-Unis comme un être de légende. Et puis, il y a cette correspondance avec Marcel Proust, qui commence en 1896. Proust lui adresse son premier livre, Les plaisirs et les jours, et Marbeuf lui répond avec beaucoup d'encouragement. Et s'en suivent... une centaine de lettres dont je suis l'auteur, de Proust à Marbeuf et de Marbeuf à Proust, et je découvre que les plus grands moments, les tournants décisifs de la recherche du temps perdu, jusqu'au style de certaines pages, sont véritablement issus, nourris, on peut dire plagiés, de lettres de Marbeuf adressées à Proust. Et que Félicien Marbeuf, le plus grand écrivain n'ayant jamais écrit, est assurément le véritable auteur du plus grand roman du XXe siècle. Et là, encore une fois, je rejoue un petit peu naïvement ce lien mythique qu'on évoquait entre Breton faisant exister Vacher comme écrivain ou Del Giudice faisant réexister Bazlaine comme écrivain. Sauf que Marbeuf, lui, n'a jamais du tout existé.
Donc... véritable écrivain du silence.
Oui, 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 mais qui n'en finit pas de faire du bruit, parce que moi, ce qui m'intéressait chez Marbeuf, en inventant Marbeuf, c'était pas du tout, encore une fois, la supercherie littéraire. Enfin, ça ne m'intéressait pas du tout. Clara Gazoul, les inventions de Gide ou de Sainte-Beuve ou de Romain Gary m'ont toujours laissé un peu insensible. Donc c'était quelque chose d'une autre nature qui m'intriguait là-dedans. Ce qui m'intriguait, c'est qu'il y avait nécessairement une part de jeu dans toute invention, dans toute supercherie, puisque ça en est une néanmoins, mais aussi une part de gravité. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser que cette invention d'un écrivain sans œuvre avait beaucoup à voir avec l'enterrement du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. La manière dont ça s'est fait et les raisons pour lesquelles on a décidé qu'il y aurait un soldat inconnu en France. Et ce soldat inconnu, c'est Maginot qui a l'idée d'ailleurs. Il réunit les chefs des 12 régions militaires après la guerre et il dit « Choisissez dans vos régions militaires un corps non identifié d'un soldat français et rapatriez les corps ». Ça s'est fait à Verdun. Et on demande à un petit piou-piou d'un régiment d'infanterie de choisir au hasard l'un des cercueils. Et c'est devenu le soldat inconnu. Et moi, c'est un peu pareil, Marbeuf. C'est-à-dire que Marbeuf, si j'avais vécu 2500 ans, j'aurais pu prendre le temps d'aller dans les bibliothèques et découvrir la trace de cet écrivain sans œuvre, parce que il a existé, il existe, bien sûr, à toutes les époques, dans toutes les cultures. Mais je me suis dit, je ne vais pas vivre aussi longtemps, j'en suis sûr, et autant l'inventer tout de suite. Voilà, donc j'ai inventé Marbeuf, mais il existe, bien évidemment.
Ouais. Mais qu'est-ce qui motive, d'après vous, ces artistes, ces écrivains sans œuvre?
C'est une très bonne question. Je ne sais pas si j'ai une réponse très claire. Je pense que c'est étrangement des réponses différentes à chaque fois, que le silence n'est pas motivé par les mêmes raisons pour chacun, parce que ce silence, d'abord, est de qualité différente à chaque fois. Dans le cas de Joubert, le silence de Joubert n'avait rien à voir avec le silence de Jacques Vacher. Le silence de Jacques Vacher était un silence dandy, éructant, insolent. Les phrases qu'il écrivait sur ses petits cartons à ses amis laissés en arrière, à l'hôpital de Nantes en particulier, où il avait rencontré André Breton, ces fameuses lettres de guerre sont des petits poèmes néanmoins, des petits poèmes ésotériques et il y a des traces, il y a de la trace, il y a de un peu de vocifération jusqu'au coup de feu qui tire dans ce théâtre lors de la première des Mamelles de Tirésias. Il y a quelque chose de très gesticulant, de très adolescent, qui n'a encore rien à voir, encore une fois, avec l'écoute attentive et précieuse d'Armand Robin. Voilà, ces silences sont de qualité différente et il faudrait aussi inventer un catalogue de ces silences selon leur qualité.
Il y a des silences qui sont des actes.
Oui, de résistance en particulier.
Et là, on pourrait y voir les actes d'un constat d'échec.
Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est pour ça que le fiasco m'intéresse plus que l'échec. Artiste sans œuvre, selon moi, et peut-être me suis-je trompé sur moi-même, n'évoque à jamais, ne chante pas la gloire de l'impuissance ou de l'incapacité ou de... J'allais dire bien au contraire. Quand je dis, et je préfère le répéter parce que c'est vrai que la confiance reste à l'art. Même si ce n'est pas une croyance, la confiance reste accordée à l'art.
Mais pas à l'œuvre.
L'œuvre, non, et pas à l'artiste surtout. C'est-à-dire que l'invention de Marbeuf pour moi désigne aussi une chose, c'est une grande incrédulité quant à la fonction d'artiste. Et ça, c'est très borgésien, cette idée que les artistes et les créateurs ne sont pas grand-chose dans l'histoire de l'invention des formes et des récits. Il y a toujours eu la littérature, il y a toujours du récit. Que Kafka soit là, Borges absent, ou Molière disparu, ou MR ayant existé. Il y a du récit, voilà, il y a de l'art. Et on n'a pas besoin de nous pour ça, on n'a besoin de personne pour ça. Ça, je crois très fortement à ça. En cela, en effet, ces personnages officiels de l'histoire, de la littérature, de l'art, passent un peu au second plan. C'est un petit peu ce que je disais pour la force de l'art tout à l'heure. La force de l'art sous-entend que les artistes sont seconds, il faut qu'ils l'acceptent. Et en cela, il n'y a rien de péjoratif ou de déshonorant. Mais il y a toujours de la fable, il y aura toujours de la fable et du récit. Et moi qui ne suis pas historien de l'art, j'aime beaucoup l'idée que l'histoire de l'art soit un lieu où on puisse écrire des histoires sur l'art. Ça veut dire par exemple que Duchamp, Marcel Duchamp, que je cite autant que Enrique Villamatas le cite, son œuvre et sa vie sont déjà devenues bien plus belles qu'elles ne l'étaient. Glose après glose, réflexion après réflexion, littérature après littérature, livre après livre, l'œuvre de Duchamp, pour nos enfants et petits-enfants, deviendra une pure merveille de fiction. Et il n'y a aucun scandale à ça, qu'on s'éloignerait peut-être d'une réalité objective qui aurait été celle de ces théories, de ces objets. Nous ne sommes pas des Américains en cela, en tant que critiques d'art. Il y a toujours une place dans la critique en France pour la littérature et pour la fiction. Et ce qui m'intéresse dans la fiction, c'est qu'elle n'est pas un passage au-delà du réel ou de la vérité. Ça peut être un en deçà comme un au-delà. Ça peut être les deux choses. Quand vous êtes scientifique et que vous avez une vague intuition avant qu'elle ne soit vérifiée, ça demeure une fiction. C'est-à-dire que Einstein, la relativité temporelle, a été une fiction longtemps avant d'être vérifiée. Donc la fiction est autant un avant qu'un après du réel. Et c'est en tout cas, ça découpe un espace beaucoup plus large que le réel lui-même.
Artiste sans œuvre, le livre de Jean-Yves Joinet est publié chez Vertical. Du jour au lendemain, Séverine Cassard, Didier Pinault, Alain Winston. Bonsoir.
C'était du jour au lendemain, Alain Weinstein s'entretenait avec Jean-Yves Joinet. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 12 juin 2009. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur franceculture.fr.